Alors, vous le savez, les collèges vont fermer. Je suis un peu en manque, donc je vais vous demander de lever des mains ce matin. Si je vous dis que hier j'ai été au marché, qui me croit? Levez la main. Ah, tout le monde me croit, c'est bien. Ah, il y en a qui sont sceptiques déjà. Si je vous dis que j'ai vu des poivrons à 8,50 € le kilo, qui me croit? Et là, vous ne levez pas la main, j'ai la photo. Je pourrais vous l'envoyer. Et si je vous dis hier au marché, j'ai croisé notre président Emmanuel Macron juché sur une licorne, qui me croit? Ah, il y en a encore. Alors on pourrait se dire ce matin, message de Pâques, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'y avait-il dans cette coupe qu'il a bu tout à l'heure? Ce n'était que du jus de raisin, je vous rassure. Mais on est réunis ce matin parce que quelque part, on est tous en train de croire qu'on a un Dieu qui a envoyé son fils mourir sur terre. Et déjà, ça, quand on commence à l'annoncer à d'autres personnes, bah, l'histoire de la licorne, au final, c'est pas si fou que ça. Et quand en plus, on commence à dire, mais il est mort, mais vous inquiétez pas, il est ressuscité. Et là, on a perdu encore plus de monde. On a un monde qui ne croit pas grand-chose. Pourtant, on a tous les moyens de faire croire les gens. On peut prendre des vidéos, chacun a une caméra sur lui. On a l'air des téléphones portables. On peut filmer tout ce qui se passe et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez voir la photo des poivrons, je vous l'envoie. Et pourtant, on est dans un monde qui est sceptique et qui ne veut pas croire. Quand bien même on est tous là à fêter Pâques, il y a des gens qui se disent, bon, bah, Pâques, c'est des œufs, des lapins en chocolat. C'est sympa, mais c'est pas mon truc. Ce matin, je vais vous faire un message de Pâques, mais bah, vous me connaissez, je vais faire un message de Pâques un peu particulier. Et on va essayer de rester sur cette idée que Jésus a dit à Thomas quand il lui est apparu, heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Et si on est là ce matin, c'est parce que quelque part on croit sans avoir forcément vu. Alors, pour commencer, si on prend déjà la première Pâque, celle qui a été instituée dans l'Ancien Testament, c'est pour la sortie d'Égypte, comme Jorgan le rappelait tout à l'heure. Et souvent, quand on parle de cette sortie d'Égypte, on parle des 10 plaies, on centre beaucoup l'histoire sur Pharaon et sur Moïse. Quand on raconte ça aux enfants, bah, il y a deux personnages, il y a Pharaon, il y a Moïse qui vient lui parler, puis il y a plein de plaies qui arrivent. Et ce matin, je vais vous faire jeter un œil sur d'autres personnages de cette même histoire. Je vais vous lire juste quelques versets, je suis dans Exode 7. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Plus loin, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Alors on voit des personnages principaux, mais il y en a qu'on voit aussi à côté. Je pourrais lire comme ça toutes les différentes plaies. Il y a des gens dont on ne parle pas forcément beaucoup dans cette histoire, c'est les serviteurs. Les serviteurs sont là. Les serviteurs de Pharaon sont aux premières loges. Ils assistent à tout. Mais plus loin, dans Exode 9, il est écrit: Voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte. Depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on a des serviteurs qui ont vu des bâtons se changer en serpents, de l'eau se changer en sang, des grenouilles, j'en passe. Et cette même personne qui leur a annoncé toutes ces choses vient leur dire: la grêle va tomber et va tout détruire, mettez vos bêtes à l'abri, mettez vos serviteurs à l'abri. Il y en a qui le font et il y en a d'autres qui s'en moquent. On peut dire c'est quand même incroyable d'assister à autant de prodiges directement et de réussir à ne pas croire à ce qui est annoncé pour la suite. Pour ce qui est de Pharaon, on le sait, Dieu l'a dit, il a endurci son cœur pour faire éclater sa gloire. C'était dans son plan. Et vous pouvez relire tout ce passage en détail, je n'irai pas reprendre toute l'histoire, mais c'est le plan de Dieu qui est à l'œuvre. Mais les serviteurs, Dieu n'a pas touché à leur cœur, il ne les a pas endurcis. Certains ont cru, certains n'ont pas cru. Pourtant, tous ont vu. Et c'est un peu la même chose quand dans le Nouveau Testament, on vient demander un miracle à Jésus. Est-ce que ce n'est pas la demande la plus débile qui existe? Vous êtes face à l'homme qui a commis le plus de miracles sur terre. On n'est pas en train de parler de miracles qu'il aurait fait juste de façon individuelle, caché dans une pièce. Il y a des miracles qui ont été discrets, mais il a nourri des foules, il a multiplié des pains et des poissons devant des foules, il a guéri des aveugles, il a libéré des démoniaques devant des foules, il a libéré des paralytiques devant des foules, avec des nuées de témoins à chaque fois. Cette personne-là qui a fait des milliers de miracles, vous venez lui dire, fais un miracle pour que nous puissions croire en toi. Je pense que s'il y avait eu 100 plaies d'Égypte et non 10, il y aurait toujours eu des serviteurs pour ne pas croire à la centième et pour ne pas écouter l'avertissement qui était donné. Tout comme on pourrait dire, il y a eu des centaines de prophètes qui ont annoncé, qui ont fait des choses extraordinaires, et derrière, il y avait toujours des gens pour continuer à ne pas croire. Dans ces versets où on demande à Jésus un miracle, si je cite ces personnes, c'est dans plusieurs évangiles, je prends dans Jean, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ces gens qui sont là, qui suivent Jésus, qui ont certainement entendu parler de tout ce qu'il a fait, lui demande à nouveau, mais quel miracle fais-tu pour qu'on croie? Est-ce qu'on a besoin de miracles pour croire? Moi, je reste persuadé que comme les serviteurs de Pharaon, si aujourd'hui Dieu faisait des miracles extraordinaires au grand jour, et il en fait, est-ce que le monde les croirait? Est-ce que le monde croit tout ce qui peut se passer? Je voulais prendre un autre passage, toujours dans cette idée-là. C'est la parabole du riche et de Lazare dans Luc 16. Il y a un homme pauvre, il y a un homme riche. Les deux meurent. Et le pauvre se retrouve dans le sein d'Abraham avec les anges, alors que le riche se retrouve dans le séjour des morts et il est en proie à des tourments. Vous pourrez relire cette parabole dans Luc 16. Mais le riche, à ce moment-là, dit à Abraham, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et ça préfigure aussi un petit peu ce qui va se passer plus tard, que Jésus, même en ressuscitant, et en ayant même tous ces témoins qui l'ont vu ressusciter, qui ont été annoncés partout ce qu'ils avaient vu et entendu, eh bien, quand bien même quelqu'un des morts est ressuscité, il ne se laisse pas persuader. Et le riche dit tout de suite à Abraham, non, non, ils vont pas croire. Ils vont pas croire les prophètes, il faut quelque chose de plus, il faut un miracle. Mais quand bien même Dieu envoie le miracle, qui croit derrière? Quand bien même des serviteurs peuvent assister à des plaies jamais vues sur terre, et derrière se dire, bah non, on nous annonce une grêle, laissons nos animaux dehors, et la grêle est arrivée, et leurs animaux sont morts. On est dans une génération où il se passe tellement de choses, on voit tellement de choses à droite à gauche, l'homme fait des choses extraordinaires, mais on a l'impression que si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, c'est des gens qui ont un peu trop bu, ou c'est des gens qui se font laver le cerveau parce que tous les dimanches, ils écoutent des sermons. C'est des gens qui sont un peu fantasques, qui ont besoin de croire parce qu'ils sont tristes dans leur vie sans ça. Ils se raccrochent à des délires. Quand vous commencez à discuter avec des gens du monde, il y a des gens qui respectent ce qu'on peut croire, mais il y a des gens pour qui on sera toujours un peu des fous et des fanatiques. Et pire encore que les serviteurs de Pharaon, on parle d'un disciple de Jésus, Thomas, l'un des 12, pas un des disciples qui suivaient de plus ou moins loin, on sait que beaucoup entouraient le Christ, ils n'étaient pas seulement 12, mais là un des 12 qui a été choisi dès le début, qui a accompagné le Christ tout du long. Tous les autres lui disent « Jésus est ressuscité, on l'a vu ». Et lui ne croit pas. On peut dire qu'il a vu des choses extraordinaires. Est-ce qu'il a vu des résurrections? Bien sûr. Jésus en a fait. On a la fille de Jaïrus, on a Lazare, etc. Il a vu des tas de miracles. Forcément, il était aux premières loges. Dans Jean 20, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On peut penser aussi au choix de Jésus de Nathanaël. Quand il dit à Nathanaël, « Avant que Philippe ne t'appelle, tu étais sous le figuier et je t'ai vu. » Et à ce moment-là, Nathanaël croit. Et de la même façon, Jésus lui dit que c'est bien de croire quand on voit. Mais encore, on peut dire, Nathanaël ne connaissait pas complètement le Christ. Là, Thomas, il a passé plusieurs années à ses côtés, à voir et à assister à tout ce qui s'est passé. Et pourtant, il ne croit pas. On est un degré au-dessus par rapport aux serviteurs de Pharaon, qui eux étaient des incirconcis, des infidèles, qui croyaient en des multitudes de dieux. Là, on est sur quelqu'un qui a accompagné le Christ pendant des années et qui pourtant ne croit pas. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas passé des années avec le Christ? Certains ici pourront dire, moi j'en suis qu'à 1 mois ou 2 mois. Certains pourront dire, moi j'en suis à 50 ans. Certains ont peut-être côtoyé le Seigneur de très près comme Thomas et ont vécu une relation vraiment intime et personnelle avec lui, et pourtant peuvent se dire par moments, non, ça je le crois pas possible. On peut regarder devant nous et se dire, tiens, le Seigneur m'appelle à ça, mais je m'en sens pas capable, je crois pas être dans la possibilité de le faire. Ça, non, ça n'arrivera pas. Alors que pourtant, on a vu des miracles. On a vu tellement de choses extraordinaires. Et si je continue un petit peu dans tout cela, il y en a d'autres qui, sans avoir vu, ont cru. Et je pensais particulièrement à un personnage que ma fille adore, parce qu'elle adore cette histoire, c'est Bartimée. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un aveugle. Un aveugle, on peut très bien dire, il n'a rien vu. On est d'accord. Bartimée n'a jamais rien vu de ses yeux. Mais il a entendu, il a simplement entendu parler de Jésus. Il a dû entendre des histoires sur lui, on ne sait pas lesquelles. Ce qu'on sait, c'est que quand il a entendu que Jésus passait au milieu d'une foule, il a crié. Et quand on a essayé de le faire taire, il a continué de crier de plus belle. Parce qu'il croyait. Il savait qu'il était aveugle. Il savait que rien à son époque ne pourrait le sauver. Tout comme encore aujourd'hui, on peut faire des miracles, mais on n'est toujours pas capable de guérir des aveugles. Mais il croyait et il criait. Il a cru sans avoir vu. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il a été exaucé. Est-ce que nous sommes dans cette foi-là? Est-ce qu'aujourd'hui, en ce jour de Pâques, on est content, on se réjouit? Alors, pas totalement, on ne peut pas fêter en famille, on ne peut pas prendre cette Sainte-Cène tous ensemble directement. Peut-être qu'on aurait fait une belle agapée, comme Jorgen en parlait. On aurait profité de ce beau soleil. Mais on est là et on se souvient de ce sacrifice. On lit ces beaux versets, on prend la scène ensemble. Mais est-ce qu'on a cette même foi? Et le Seigneur m'a mis à cœur une réflexion dernièrement. Il m'arrive souvent d'avoir des maux de tête ou des migraines, parce que certainement je réfléchis trop, mais pas de la bonne façon, si mon cerveau se plaint. Et mon réflexe dans ces moments-là, c'est de prendre un Doliprane. Alors, je suis pas là ce matin pour faire de la publicité pour des médicaments, mais simplement, je me dis, tiens, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Et d'un autre côté, ma fille, quand je vais prendre sa température ou quand je vais lui mettre ou lui retirer un pansement ou quand je vais lui mettre juste un coup de spray dans le nez parce qu'elle avait le nez un peu bouché cette semaine, à chaque fois, elle m'arrête et me dit, viens, papa, on prie. C'est bête, hein? Mais si on nous demande d'avoir la même foi que les enfants, c'est pas pour rien dans la parole. Mais peut-être elle a une petite peur, elle aime pas, c'est pas des moments très agréables de se mettre un coup de spray dans le nez. Donc elle me demande toujours à ce qu'on prie avant. Et moi je me dis, mais à quel moment je prie quand j'ai mal à la tête? Moi mon réflexe c'est quoi? J'ai mal, je prends un médicament. Où est Dieu dans ma vie? Quelle place je lui donne? Alors oui, si demain je me retrouve aux portes de la mort à l'hôpital, là, je vais prier. Si demain, il y a un souci grave qui nous arrive, là, je vais prier. Mais dans les petites choses du quotidien comme ça, on peut faire pareil, hein. Vous pouvez regarder les chiffres du Covid chaque jour. Et puis, quand les chiffres montent, vous allez entendre des gens dire, mais où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi il laisse faire ces choses? Et vous allez entendre, après, quand les chiffres du Covid descendent, vous avez vu quand même le vaccin. Il fait des choses bien. Hein. Et on va nous dire des beaux discours. Ah, les Français respectent les règles et les gestes barrières. Et grâce à tous vos sacrifices, regardez, les chiffres baissent. Où est Dieu? Quand ça va pas, hein, les gens nous le sortent. Hein. Ah, tu pries, et regarde, il y a des pandémies. Regarde les morts, regarde les famines. Il est où ton Dieu? Regarde les guerres qui se passent. Par contre, quand ça va bien, ah. Louons les laboratoires pharmaceutiques qui sont en train de se faire des millions, hein, ça, c'est un autre débat, mais qui nous permettent de rester en vie. Eh oui, écoutez le discours du président et écoutez le discours qu'il va tenir dans quelques temps quand ça ira mieux et quand il va dire à quel point on est tous formidables. Écoutez l'absence totale de la mention de Dieu dans toutes ces choses. Mais même nous qui le connaissons, même nous qui le prions, même nous qui lisons la parole, comme cet exemple tout bête de prendre une aspirine sans réfléchir, est-ce que nous prions? Est-ce que nous reconnaissons l'œuvre de Dieu? Pas simplement l'œuvre à la croix qui nous libère et qui permet qu'on soit pardonné de nos fautes, mais est-ce que nous reconnaissons au quotidien? Est-ce que comme Thomas, on n'a reconnu que quelques miracles, mais on en attend un peu plus pour y croire vraiment. Est-ce que comme les gens contemporains de Jésus qui lui demandaient d'autres miracles, est-ce qu'on a besoin de toujours plus? Est-ce qu'on est prêt à croire juste les choses qu'on est capable de croire? Alors on peut dire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et on en fait partie. Enfin. Quand je dis on en fait partie, j'ai envie de dire que pas vraiment. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir vu Dieu. Pas forcément face à face directement comme les 12 ont pu le voir et converser avec lui, mais quand on regarde autour de nous les choses, quand je vois mes enfants, quand je vois la foi de ma fille, quand j'ai vu ma fille, mon fils à la naissance, et je me suis dit, bah certainement, pour faire des choses aussi belles, il faut qu'il y ait un Dieu quelque part. Quand je vois l'amour que ma femme me porte, alors que des bêtises, croyez-moi, j'en fais. Quand je vois les faiblesses, les blessures que j'ai, et je vois tout ce qu'elle est capable d'accepter et de continuer à m'aimer après toutes ces années, je me dis ça peut pas venir de simplement son caractère. Je vois l'amour de Dieu dans l'amour qu'elle me porte. Quand je vous regarde tous sur Zoom, là, tous des profils si différents, des personnes tellement différente que rien n'aurait pu rassembler, si ce n'est cette foi qu'on partage. Quand je me dis qu'on a parmi nous des retraités qui, au lieu de profiter de leur retraite, passent leur journée à travailler encore pour Dieu. On est fou, hein, selon ce monde. Quand je regarde par exemple Jorgan, qui supporte un autre club de foot que le mien, je me dis que ça, dans le monde, ça suffit pour ne pas se parler à certaines personnes. Ah, t'es Marseillais, moi je suis Parisien, restons séparés. Quand je vois toutes ces choses qui arrivent à nous maintenir unis, malgré la distance, malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on veut, quand je vois le temps qu'on peut passer à prier les uns pour les autres, à se soucier les uns des autres, dans tout cela, je vois Dieu. Quand je vois les arcs-en-ciel aussi, et je me dis, mais combien de déluges on aurait dû se manger, vu tout ce qu'on a pu faire sur cette terre. Je me dis, Dieu nous aime. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, et j'ai envie de terminer ce culte par un autre verset. Dans Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors je vous invite ce matin, dans ce moment de Pâques, à vous souvenir de tout ce que Dieu a pu faire et de tout ce que Dieu va faire dans vos vies, et à ne pas faire comme ce monde un peu sceptique, qui ne croit rien, quand bien même on arriverait à multiplier des pains devant eux, ils chercheraient le truc, ils se diraient « Ah, il y a quelque chose qui est caché derrière, qu'on voit pas, il y a une trappe quelque part ». Mais ayons cette foi simple comme les enfants et sachons croire tout ce que Dieu nous annonce. Aujourd'hui, si vous lisez sur Internet, dans telle église, une personne est ressuscitée, quel est notre premier réflexe? Est-ce qu'on va dire Alléluia, merci Seigneur, ou est-ce qu'on va dire, ouais, c'est un peu bizarre quand même, puis c'est pas une église de notre union, on les connaît pas bien, ceux-là, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? On devient sceptique parce que le monde dans lequel on est sceptique, mais sachons croire les choses simples de Dieu et au quotidien. Bah, si vous avez mal à la tête, je vous invite à prier. Je vous dis pas, ne prenez pas de médicaments, hein, c'est pas mon message ce matin. Mais je vous dis simplement, dans les petites choses du quotidien, n'oublions pas qu'on a un Dieu qui est grand dans les petites choses comme dans les grandes choses. Si vous voulez, pour terminer ce message et pour laisser la place à Jorgan, pour la fin du culte, je vais juste prier avec vous. Oui, merci Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous, parce que tu t'es montré à nous, parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as rassemblés tous différents. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as construit cette église, Seigneur. Et c'est toi qui as mis ensemble ces personnes avec des capacités et des dons différents afin de se compléter les uns les autres et de pouvoir œuvrer tous ensemble pour ton service. Et aide-nous parce que nous sommes environnés de gens qui passent leur temps à nier ton existence, à se moquer, à nous faire douter. Aide-nous à continuer de croire cette foi simple de ces petits enfants qui venaient à toi et que tu accueillais les bras grands ouverts. Aide-nous à leur ressembler pour pouvoir connaître ton royaume, Seigneur. Aide-nous à pouvoir, en ces jours de Pâques, nous souvenir de son sacrifice, mais nous souvenir aussi de tout le reste qui est dans la parole, et à ne pas nous contenter de lire les passages que nous aimons bien, mais à lire l'ensemble et à chercher à comprendre l'ensemble, à chercher à te connaître chaque jour davantage et à te servir chaque jour davantage, Seigneur. Et merci parce qu'en effet, on a beaucoup entendu parler de toi, mais on peut le dire dans nos vies, on te voit, Seigneur, on te voit à l'œuvre. Merci, Seigneur. Amen.